Lionel Alrens dans l'Aveyron. Je réagis aux deux sujets dont vous venez de parler. Je suis à 100% d'accord avec le gars de Terre de Liens que vous receviez une minute après la chronique de Camille Cronier sur la fin de la chasse. Bon, deux styles, deux ambiances, j'ai envie de dire, parce que les gens que vous prétendez soutenir ou porter à bout de bras, là, les petits agriculteurs dont je fais partie, je suis moi-même agriculteur, propriétaire d'une ferme familiale de 50 hectares, c'est ces gens-là, les chasseurs. Je crois que vous n'avez pas saisi le truc, en fait. D'accord, il y a des chasseurs qui vont en Afrique tuer des lions. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais après, vous parliez de la Namibie, mais allez voir les gens. Et je parlais avec le mari d'une amie qui est kényan et dont la famille vit près d'un parc au Kenya. Ils sont contents qu'on les débarrasse des prédateurs. Ça les aide. Tout aussi bien que ici, les gens qui font de la polyculture élevage dans le Massif central, par exemple, sont contents quand ils tuent un renard. Mais ça, il faut que vous le mettiez dans la tête. Les renards mangent les poules. On est en 2022, mais les renards continuent de manger les poules. Ça, je vous le garantis. Arrêtez de vouloir mettre la nature sous cloche en permanence. L'homme est un intervenant dans la nature. C'est des chasseurs. Point final, c'est pas parce qu'en ville vous avez coupé votre lien et que vous voyez la nature comme un parc d'attraction qu'il faut imposer ou vouloir à tout prix faire la promotion de ce point de vue, quoi. Ça, franchement, voilà, arrêtez de mettre les doigts sur des choses et de dénoncer tout le temps l'extrême en faisant croire que l'extrême c'est la généralité, quoi. Franchement.
Bonjour, la tête au carré. Je m'appelle Sylvie et je vous appelle de Rennes. Je voulais vous signaler la projection d'un court documentaire à propos du nucléaire qui sera suivi d'une discussion autour de cette question essentielle en cette période électorale, demain, avec ou sans nucléaire. Si vous voulez échanger avec des anti, mais aussi des pro-nucléaires, n'hésitez pas à nous rejoindre au cinéma L'Arvor, à Rennes. C'est ce mercredi 30 mars à 19h. Merci, bonne soirée.
Ouais, bonjour, c'est Laurent du Lot. Là, je viens d'entendre la chronique de Camille Cronier. Merci, Jean. Ça me soulève l'estomac de constater que j'appartiens à la même espèce que ces gens-là, quoi. J'en ai honte. Là, il y a eu quand même un échantillonnage qui était gratiné, quoi. Et puis le type qui fait des descentes de lit en ours, et puis ils sont là, essayer de laver le cerveau des gosses, quoi, ce qui est la pire des choses, c'est absolument immonde. Non, vraiment, je suis écœuré, et en plus, bon, quand je sais que demain, il y a une deuxième couche. Enfin bon, quand même, merci à Camille de faire entendre aux gens, et peut-être il y en a qui se rendront compte qu'il y a certains de leurs semblables qui sont dans l'humanité. Merci, au revoir.
Et vous avez été très nombreux à réagir au sujet de cette chronique consacrée donc au salon de la chasse. Et donc, ça n'est pas terminé puisque vous pourrez entendre la seconde partie dans quelques minutes. Ce qui ne manquera pas, j'en suis sûr, d'alimenter vos messages sur ce répondeur. Et puis, concernant le nucléaire et pour rebondir sur le message de Sylvie, je vous signale que nous ferons une terre au carré sur le sujet le 13 avril prochain. En attendant donc, le répondeur prend toutes vos questions et vos témoignages au 01 56 40 45 45. N'en déplaise à certains, l'histoire de notre humanité est marquée par les migrations et les métissages. Depuis 2 millions d'années, en effet, le genre homo n'a cessé de se déplacer au fil d'allers-retours incessants d'un bout à l'autre du globe. Ces mouvements de population font l'objet d'un livre qui paraît aux éditions Payot. Et Jean-Paul Demoule, vous en êtes l'auteur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et professeur émérite à Paris 1. Et donc votre ouvrage « Homo migrans, de la sortie d'Afrique au grand confinement » résonne évidemment tout particulièrement en ce moment, à l'heure où un quart de la population ukrainienne est était contrainte de se déplacer pour fuir les zones de combat. Des formes de migration, on va voir, il y en a énormément. Et pour en parler, se trouve également à vos côtés la spécialiste d'anthropologie génétique, Evelyne Heyer. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. On verra avec vous comment votre discipline permet aussi de comprendre l'histoire des migrations humaines. On se retrouve donc dans un instant avec les questions et les messages des auditeurs, la page de la Terre au carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter pour nous rejoindre. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Très attendue, seconde partie de votre chronique
voilà,
sur la chasse.
Épisode 2 au Salon de la Chasse, j'ai abordé les sujets d'actualité qui fâchent.
Et puis à 14h40, nous laisserons place à la campagne officielle pour la présidentielle. Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Anna Massardi avec à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Selon l'UNICEF, depuis le début de l'invasion russe, 4,3 millions d'enfants ukrainiens, soit plus de la moitié de la population enfantine du pays, ont dû fuir leur foyer. Sa directrice générale, Catherine Russell, a affirmé que cette guerre a provoqué l'un des déplacements d'enfants à grande échelle les plus rapides depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, pour le moment, le premier mois de guerre en Ukraine a résulté au départ à l'étranger de 3 600 000 personnes.
C'était Euronews le 24 mars dernier. Jean-Paul Demoule, Homo Migrants, donc de la sortie d'Afrique au grand confinement. Ce livre que vous publiez chez Payot, que vous avez terminé d'écrire avant que commence justement la guerre en Ukraine. Justement, ce grand exode de la population ukrainienne aujourd'hui, qu'est-ce qui le caractérise au fond parmi toutes les migrations que vous avez étudiées dans ce livre?
C'est une migration qui est liée à l'extension ou la réextension d'un empire et qu'on a régulièrement dans l'histoire à partir du moment où les empires commencent à apparaître, c'est-à-dire quand même il y a déjà 5000 ans. Donc cette extension fait que des gens vont fuir, que des gens vont mourir et que peut-être cette extension va rater, même si elle avait déjà commencé depuis une dizaine d'années. Donc les réfugiés sont effectivement une des formes de migration et symétriquement la conquête militaire qui lui est liée en est une autre.
Et des formes, donc il y en a beaucoup, migration politique, de peuplement, migration de conquête économique. Et comment est-ce qu'on appelle la migration qui pousse tout simplement certains humains à explorer de nouvelles terres par curiosité, ce qui s'est passé aussi tout au long de notre histoire humaine,
hein? On peut penser que la curiosité, il n'y a jamais une cause unique des migrations, mais on peut penser que la curiosité en fait partie, que le départ d'une partie des sapiens d'Afrique, c'était à chaque génération, voire un peu plus loin. Christophe Colomb, ça pouvait être la curiosité, mais aussi des intérêts politiques et économiques, tout comme la conquête de la Lune.
Ouais. Evelyne Heyer, dans votre ouvrage L'Odyssée des Gènes, chez Flammarion, vous rappelez que simplement le fait d'aller chercher de nouvelles nourritures, par exemple, ou de nouvelles techniques, ça a pu favoriser aussi l'immigration.
Oui, puis en plus, il faut bien remettre le rythme. Par exemple, une fois que notre espèce est partie coloniser la planète en sortant d'Afrique, c'est quand même 10 ou 20 000 ans pour atteindre l'Australie.
Donc, alors c'est quoi le rythme? Alors, on le calcule au kilomètre?
De l'ordre de quelques kilomètres par génération. Donc ouais. En gros, vos descendants vont s'installer un petit peu plus loin. Et juste ça, ça fait globalement un ensemble de grandes migrations.
Ce qui veut dire que nous sommes tous issus de migrations diverses et variées.
Alors, on a tous des ancêtres migrants, et pour ceux qui ont des descendants, dans leurs descendants, il y aura forcément des migrants.
Et ça, on le retrouve dans nos gènes, justement,
les Dans les gènes, maintenant, on arrive à retrouver, avec les données super précises qu'on a à l'heure actuelle de la génétique, toutes les petits bouts d'histoire d'ancêtres et de migrations, et on voit bien qu'on est tous le résultat de ces ancêtres qui viennent de plein d'endroits différents sur la planète.
Ça, c'est fascinant, Jean-Paul Demoule. Parce que ça, c'est l'aspect de la génétique, justement. Pour l'archéologue, alors, quels sont les indices qui permettent de retracer cette histoire très ancienne, encore une fois,
C'est vrai que la génétique a beaucoup apporté depuis une dizaine d'années. Et d'un point de vue archéologique, quand on voit des objets qui se déplacent, par exemple, les premiers agriculteurs en Europe viennent du Proche-Orient, et on peut suivre kilomètre par kilomètre la progression de leurs pratiques funéraires, des formes de poterie, des outils, de l'architecture, et ça se complète très bien.
Il y a des objets qui se déplacent, mais il y a des dents, il y a des os aussi.
Oui, c'est ça. Et dans les dents, les os, on arrive à retrouver l'ADN, et avec ces études d'ADN, on a pu montrer que concomitamment avec ces déplacements d'objets, en fait, c'est des gens qui avaient bougé. Ce qui n'est pas le cas de toutes les migrations.
Donc c'est le strontium, c'est ça, Jean-Paul Demoule, qui sert
Le strontium et la génétique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit ces agriculteurs qui arrivent du Proche-Orient, les premières générations, ils restent entre eux, et assez vite, ils vont se métisser avec ceux qui étaient là avant, c'est-à-dire les indigènes chasseurs-cueilleurs.
Et est-ce qu'il y a des périodes de l'histoire qui sont plus marquées par des grosses périodes de migration dans certains lieux de la planète aussi, ou pas?
Ben oui, bien sûr, quand les Européens décident que le monde est à eux et qu'ils commencent à le coloniser à partir du XVIe siècle, oui, c'est alors que ça avait... Ils n'étaient pas sortis d'Europe jusque-là, mais cela dit, avant, pendant tout le Moyen-Âge, l'avancée et la migration des Arabes, des Mongols, les Vikings, mais ça marche plus ou moins. Par exemple, les Vikings, ils sont en Sicile, ils sont en Normandie, ils sont en Angleterre, mais plus personne ne parle le viking.
Quelle différence vous faites entre migration et colonisation?
C'est pareil, simplement l'émigration des premiers agriculteurs ou des premiers sapiens, quand ils parlent d'Afrique, sont relativement pacifiques, encore qu'on ne sait pas comment les Néandertaliens ont disparu, on ne sait pas encore. Les colonisations, c'est violent.
Il y a quand même une intention, effectivement, dans la colonisation. Ouais. Oui. Ce qui est amusant, c'est donc vous remontez à 2 millions d'années, c'est Homo erectus, c'est vraiment le début du genre Homo. Sûr, et alors vous dites, c'est rigolo, parce qu'évidemment, Homo erectus ne savait pas qu'il était migrant lui-même.
Non, c'est puisque c'est à chaque génération, comme vient de le dire Evelyne, ils n'ont pas su qu'ils sortaient d'Afrique, et c'est à chaque génération, on va un peu plus loin, donc...
Evelyne Hier,
oui, oui, bah c'est
pourquoi
ça,
ce grand sourire sur votre visage?
Non, mais c'est parce que c'est vrai, nous on a une vision des migrations maintenant où bon, ça peut être forcé, comme dans le cas des réfugiés ukrainiens, mais c'est souvent un acte volontaire.
Ou d'autres réfugiés, en plus.
On choisit d'aller dans un autre, dans un autre pays pour des raisons économiques ou pour fuir la guerre, alors qu'on pense que dans le passé, il n'y avait pas cette intentionnalité aussi clairement exprimée. Mmh. Les premiers sapiens qui sortent d'Afrique, ils se disent pas « je vais aller en Australie ». Quoi. Mmh.
Ouais. Et heureusement, parce que ça les aurait probablement découragés, hein. Ce qu'il fallait quand même avoir beaucoup de courage, effectivement, pour le faire. Jean-Paul Demoule, là aussi, vous rappelez quelque chose d'intéressant, c'est que les migrations ne sont pas le propre de l'espèce humaine. De nombreuses espèces animales, mais également végétales aussi, migrent, hein.
Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les espèces invasives, notamment comme nous, d'ailleurs, qu'on reconnaît maintenant comme invasifs, au lieu que ce soit...
Alors ça, je trouve que ça prête à discussion, finalement, de dire d'Homo sapiens que c'est une espèce invasive, non?
Bah oui, parce que...
En quoi il est invasif, au fond?
Il fait disparaître une grande partie des autres espèces, soit directement les espèces qui ne l'arrangent pas. On le voit très bien, l'arrivée des sapiens par le détroit de Bering il y a 20-25 000 ans fait disparaître toute une grande faune. Actuellement, symétriquement, on sait bien qu'il y a un tiers des oiseaux en France qui a disparu en 30 ans. Et on va favoriser les espèces qui nous arrangent, comme les bovidés, avec un impact sur l'environnement très fort. Donc on est tout à fait invasif. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet sur notre espèce, quoi qu'il arrive.
Dans les projections, justement, dont on parlait rapidement tout à l'heure, est-ce qu'on peut prévoir, entre guillemets, les causes majeures de futures migrations ou colonisations, ou pas du tout? Est-ce que ce sera...
Les études sociologiques des migrations, ils regardent ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse des gens à partir, et le pull, ce qui les attire. Et c'est clair que dans le push, il y a bien sûr la guerre, d'où les réfugiés, il y a aussi les raisons économiques. Et là, on se demande, le point d'interrogation, c'est quid du réchauffement climatique? Est-ce que ça va entraîner aussi un nouveau, entre guillemets, push, c'est-à-dire une nouvelle raison d'entraîner des migrations? Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout des migrations à petite échelle.
Mais est-ce que ce sont des cycles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des millions d'années qui se découlent, on se rend compte que finalement, c'est un peu toujours les mêmes cycles qui reprennent les uns après les autres, hormis réchauffement climatique?
Constant, hein, il y a toujours eu des migrations. Ce qu'il y a de plus marquant là depuis un siècle, c'est que les gens bougent à des échelles géographiques beaucoup plus grandes. En dehors des migrations forcées, par exemple l'esclavagisme, avant c'était moins des migrations à si grande échelle géographique, mais elles étaient tout aussi importantes. Et d'ailleurs en démographie, depuis qu'on mesure les migrations depuis 100 ans environ, on voit que c'est toujours 3% des individus qui migrent, 97% des individus meurent dans le pays où ils sont nés.
Sauf que là aujourd'hui on a des outils pour notre mobilité, évidemment, hein, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Jean-Paul Demoule, au sujet du climat, finalement, en dehors même du réchauffement climatique, ça a toujours été une constante aussi qui justifie, au fond, ces déplacements. Hein.
Oui, bien sûr, puisque notre planète connaissait des alternances de périodes glaciaires et d'interglaciaires. La nouveauté, c'est que le précédent interglaciaire a duré 15 000 ans, moins 130 000 et moins 115 000 ans. L'actuel, il risque de durer très longtemps, parce que maintenant, les climatologues pensent qu'on a dépassé les limites et qu'on ne pourra plus de nouveau être dans une période interglaciaire. Mais pendant les périodes glaciaires, évidemment, il y a eu des migrations climatiques et il a fallu descendre vers le sud.
Jean-Paul Demoule, archéologue, Evelyne Hier, généticienne, sont nos invités pour parler donc de nos migrations au fil du temps.
to me. Don't you think I see? I don't want to be a prisoner to who I used to be. I swear I changed my ways for the better, the better. 'Cause I wanna be with you forever, forever. Oh, is there someone else or not? 'Cause I wanna keep you close. I don't wanna lose my spot. 'Cause I need to know if you hurting him or you hurting me. If I ain't with you,
et bien, Someone Else, The Weeknd sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà maintenant plus de 200 000 ans que Néandertal est le seul habitant de l'Europe. Mais pendant ce temps, les Homo erectus restés en Afrique ont évolué de leur côté. Ils se sont aussi transformés et ont donné naissance à une nouvelle espèce. Homo sapiens, l'homme moderne, dont l'anatomie est identique à la nôtre. Venus d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud ou de l'Est, des groupes d'Homo sapiens s'installent au Proche-Orient vers moins 100 000 ans.
Un petit résumé de notre histoire, extrait d'Homo sapiens sorti d'Afrique d'Arte en 2010, réalisé par Axel Clévenot et Jean-Paul Demoule pour ce livre Homo migrants de la sortie d'Afrique au grand confinement, ainsi qu'Evelyne hier. Evelyne, justement, parce que Homo sapiens, c'est aussi un primate quand même, un primate parmi d'autres primates, sauf que c'est le seul qui va aussi loin, qui bouge autant, non?
Bah oui, c'est ça qu'il y a d'un peu fascinant, parce que ça soit les bonobos, les chimpanzés ou les gorilles, ils sont un peu toujours restés, dans la forêt en Afrique centrale, et ceux qui travaillent sur ces animaux montrent que ils nous ressemblent énormément, ils sont visiblement beaucoup plus intelligents que ce qu'on pensait. De là la question, pourquoi nous on s'est mis à bouger et pas eux? Je trouve ça très intéressant.
C'est quoi? C'est notre capacité d'adaptation qui est différente? Enfin, vous y notez, c'est celle de
c'est certainement, on est arrivé à s'adapter, mais eux aussi, ils arrivent à s'adapter. Donc, je trouve qu'il y a autre chose, il va falloir qu'on trouve, et je trouve que le ressort de la curiosité est peut-être une des meilleures explications.
Alors même que le chimpanzé, le gorille, change de nid tous les soirs, mais pour autant, il reste quand même sur un territoire assez fixe.
C'est ça, sur un territoire assez délimité.
Jean-Paul Demoule, au sujet de territoire, justement, il y a quand même un moment d'histoire très, très important, c'est le néolithique, il y a 10 000 ans, il se passe quelque chose qui change la face du monde, on fait de l'agriculture, on élève des animaux, donc finalement on se sédentarise. Est-ce que c'est un coup d'arrêt massif au mouvement migratoire ou pas?
Oui, bien sûr, dans un premier temps, effectivement, on invente le confinement dans des maisons à l'intérieur de villages.
C'est le premier grand confinement, hein, c'est ce que vous écrivez.
Oui. On se confine en plus avec des animaux qui vont nous apporter des maladies nouvelles, on invente les épidémies puisqu'on est de plus en plus nombreux, mais du fait que effectivement, en 10 000 ans, c'est-à-dire 4% de la durée d'Homo sapiens, on va passer de 2 millions d'humains sur toute la planète aux 8 milliards actuels, ça crée ce boom démographique fait que, à partir des foyers d'invention de l'agriculture et de l'élevage dans différents continents, le trop-plein humain, par rapport aux capacités de production du moment, va se déverser petit à petit et va assimiler ou massacrer les chasseurs-cueilleurs dont il n'existe pratiquement plus aucune société.
Mais pourtant, il y a toujours un parallèle quand même entre la sédentarisation et les mouvements migratoires. Ça reste quand même très vivant.
Bien sûr, parce que cette explosion démographique fait que le trop-plein démographique est obligé d'aller un peu plus loin. Alors, ça peut se mélanger, effectivement, comme le disait Evelyne, à la curiosité. Et puis, quand les sociétés se territorialisent de plus en plus, ça crée des tensions, les conquêtes, les invasions, etc. Donc ça va créer de nouvelles formes de déplacement de population. Mais enfin, c'est dans la continuité le problème de résoudre ce trop-plein démographique.
Sauf qu'il y a beaucoup d'allers-retours aussi dans ces migrations linéaires. Il n'y a pas un grand système linéaire. Au contraire, c'est fait de ruptures, d'arrêts et d'allers-retours.
Surtout le néolithique, on voit qu'il y a des phases d'arrêt, ça se calme, après ça reprend. Enfin, c'est jamais... Nous, on voit ça maintenant et on a l'impression que ça va très vite, mais c'est toujours des échelles de temps très lentes, avec effectivement des avancées, des retours, etc. Mais c'est vrai que le panorama global, c'est quand même, avec l'invention de l'agriculture, cette espèce de grande vague migratoire partie des centres où sont nées l'agriculture. Bon, après, on a eu d'autres grandes migrations, hein, par exemple les nomades des steppes à l'âge du bronze, où on voit dans le génome des individus européens très rapidement une part génétique importante qui vient de ces individus des steppes au nord de la mer Caspienne.
Et est-ce que, Jean-Paul Demoule, l'archéologie permet de recréer un petit peu les différents itinéraires, on va dire, et de voir s'ils étaient, ils pouvaient être très longs d'un coup, c'est-à-dire qu'on partait d'un point A en se disant on va aller au point B, ou si c'était un petit peu le hasard, ou si on s'arrêtait en route, et est-ce qu'on sait un petit peu si...
Oui, bien sûr, on peut le suivre très, très précisément, notamment en Europe, où il y a le plus fort taux d'archéologues au kilomètre carré, donc, alors qu'en Afrique, on connaît beaucoup moins bien, et puis la géopolitique complique les recherches, mais on peut suivre à la fois comment une culture matérielle, comme on dit, c'est la forme de vase de maison, se répand, qu'on couple avec des méthodes de datation qui maintenant sont à quelques dizaines d'années près, donc on peut préciser.
Et est-ce qu'on arrive à déterminer, du coup, s'il y a vraiment parfois des itinéraires qui sont très longs parce qu'il y a une intention d'arriver à tel point, ou si c'est un peu, encore une fois, au hasard, au fil de l'eau?
C'est plutôt par mer. On peut, par exemple, l'Europe est colonisée par deux courants de colonisation agricole. Par l'intérieur, c'est progressif et avec des moments de stase, notamment quand on passe des Balkans à l'Europe centrale, il faut s'habituer à un nouvel environnement, à un nouveau climat. En revanche, ceux qui passent le long de la Méditerranée par cabotage, eux sont susceptibles d'aller très vite.
Jean-Paul Demoule, il y a une constante aussi au fil de cette histoire des migrations, c'est la constante du barbare, c'est-à-dire on voit le migrant comme un barbare, on le voit comme un bouc émissaire. Oui. Donc ça a vraiment toujours été au fil de l'histoire une constante.
Bah, dès qu'on a des textes, donc des témoignages précis, barbare est un mot grec, c'est ceux qui ne font que des borborigmes, barbares, on comprend pas ce qu'ils disent, mais dès les Grecs et après les Romains, il y a toujours un rapport ambigu. C'est-à-dire que à la fois, effectivement, ils sont pas civilisés, ils parlent pas grec, ils mangent pas comme nous, mais en même temps, des fois, c'est des mœurs plus pures. Ça donnera le bon sauvage au XVIIe, XVIIIe siècle. Et par exemple, à Athènes, eh bien, l'administration centrale, c'est les énarques aujourd'hui chez nous, c'est des esclaves justement pour pas trop se laisser dominer. La police, c'est des archers des steppes, du monde scythique. Et donc on va les utiliser.
Pourtant, ce que vous montrez, c'est que finalement, ces migrations, ce sont des échanges de connaissances, de techniques, de savoir-faire, et ça, c'est ultra précieux pour l'évolution aussi de l'humanité.
Ben, sans arrêt, c'est peut-être sans doute une des raisons sous-jacentes. C'est-à-dire que si on regarde notre propre culture matérielle actuelle, c'est des mélanges aussi bien au niveau de la nourriture, des recettes de cuisine, des habits, de la musique. C'est venu de toutes les parties du monde.
Et des gènes, évidemment,
des gènes aussi.
C'est un grand brassage génétique.
On voit bien que même si, entre guillemets, dans les écrits, on n'aime peut-être pas trop les migrants, il y a toujours eu des mélanges, en fait.
Donc, vous mettez... arrêtez de dire de souche, petit message.
Ça n'existe pas, voilà. Parce qu'il y a toujours des mélanges. On a tous des ancêtres migrants, et quand des immigrants arrivent, inévitablement, ils se mélangent. Ça n'existe pas, des populations qui coexistent, qui ne se mélangent pas.
Donc il faut s'en rappeler. C'est un peu la conclusion de cette histoire d'ailleurs. Hein. C'est que nous sommes tous des migrants. Hein.
Nous avons tous des ancêtres migrants. On en a aussi qui n'ont pas bougé.
Ouais.
Donc on est tous des métis alors, il faut le dire comme ça?
On peut le dire comme ça, mais j'aime moins ce terme-là. Ce serait toute une autre émission pourquoi le terme métis peut être connoté négativement, parce qu'il sous-entend des populations clairement différentes les unes des autres qui se mélangent. Ce qui est rarement le cas, parce que déjà, il y a déjà des mélanges. Oui. Donc, c'est pour ça que le terme métis en sciences sociales est un peu, je dirais, difficile à manipuler. Vaut mieux dire qu'on a tous des ancêtres migrants.
Qui a peur des migrants? C'est la conclusion d'ailleurs, oui, c'est la question que vous posez, parce qu'elle nous interroge énormément. Quand on lit cette histoire qui est très dense, quand même, Jean-Paul Demoule, c'est vrai qu'au bout du compte, on se dit, mais... pourquoi faire autant de débats sur ces questions-là, au fond, non?
Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs ça va et ça vient. Pendant longtemps, c'était pas vraiment un problème. Mais ça dépend des périodes. Et puis, des fois, on reconstruit. Par exemple, les invasions barbares, c'est en partie un mythe reconstruit après coup.
Donc, c'est une sorte de méconnaissance?
C'est une histoire de de mélange, de manipulation politique et idéologique, de la peur spontanée de l'autre qu'on trouve chez tous les, dans toutes les sociétés humaines, effectivement. Et,
donc c'est un levier formidable sur lequel on peut actionner pour essayer de ramener vers soi un maximum de gens.
Ah oui, ça marche bien. Ah, définir un autre, en général, c'est bien pour éviter de traiter des problèmes à l'intérieur.
Ouais, définir un autre comme le bouc émissaire en particulier.
Tout à fait.
Hein. Oui, toujours, c'est vraiment une constante depuis le début. Ça ne sert à rien de donner des chiffres, mais de montrer qu'effectivement, pour mettre les pieds dans le plat, il n'y a pas de grand remplacement, on peut le montrer, mais ça ne sert à rien.
Ouais. Il faut lire cette histoire, elle est extrêmement éclairante et elle est basée sur la science. Ça s'appelle donc « Homo migrans, de la sortie d'Afrique au grand confinement », petit clin d'œil au passage. Et c'est aux éditions Payot. Vous restez avec nous, on aura peut-être le temps de vous poser une ou deux questions tout à l'heure.
France Inter. La Terre au carré.
14h30, Camille Passauvert.
Et comme promis, je vous ramène au Salon de la Chasse, où j'ai donc profité d'avoir tout plein de chasseurs sous la main pour échanger, en tout cas essayer.
C'est pour dire que les chasseurs tirent n'importe où, non ?
Non, pas France Inter.
Sincèrement.
Non. Bah parce que vous êtes des anti-chasse, vous partez maintenant.
Ok, merci. Tout de suite.
Viré, hein.
Bon, ils n'étaient pas tous comme ça. Je dis tous parce que la Fédé a beau communiquer sur le nombre croissant de femmes, ça reste quand même très masculin. Cette histoire, plus de 97% d'hommes. Échanger donc sur certains sujets qui les visent, ces chasseurs, à commencer par la remise en question de la pratique en elle-même. Mais lui, par exemple, est serein.
On a en face aujourd'hui des détracteurs. Bon, il y en aura toujours, mais ça explose le monde de la chasse, donc il y aura de plus en plus de monde qui fera de la chasse. La ruralité prendra le dessus. Plus en fait il y aura un combat, plus il y aura de chasseurs.
Et cela même si le nombre de licenciés a baissé, je le rappelle, de moitié depuis 40 ans. Pourtant, chasser, c'est in pour Pierre, bientôt 40 ans, et basket Air Max au pied.
C'est complètement dans l'air du temps de chasser son propre gibier, de le cuisiner. C'est quand même une viande éthique, bio, on est en plein dedans. Mais par contre, le fait que c'est nous qui les chassons directement, ça dérange. On va toujours être les vilains petits canards, ça c'est une certitude.
Les vilains petits canards venant d'un chasseur, elle est bonne celle-là. Mais les critiques se sont faites plus intenses ces derniers temps après la mort de plusieurs non-chasseurs. Une randonneuse, un automobiliste, rien que depuis septembre, tué par une balle.
Un accident, c'est toujours un accident de trop. Après, c'est vrai que le fait qu'on ait une arme de chasse, c'est toujours plus décrié que sur quelqu'un qui va se faire rentrer dedans en ski ou des choses comme ça. Parce que c'est pas forcément le sport sur lequel il y a plus de morts. Mais c'est vrai qu'après, ça peut arriver que ce soit des gens qui sont extérieurs à la chasse. Et c'est là où ça pose problème, ça c'est clair.
Et écoutez bien ce que m'ont dit ces trois copains, la nouvelle génération donc de chasseurs, puisqu'ils ont moins de 25 ans.
Le problème, c'est les gens qui sont autour qui n'ont pas leur place. Ceux qui ramassent les champignons.
Mais les gens qui ramassent les champignons, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?
Ils n'avaient pas ramassé les champignons du samedi au lundi. Ils ont toute la semaine pour ramasser. Alors, du samedi.
Exactement, comme nous, il y a eu une pétition comme quoi on devrait arrêter la chasse le samedi et le dimanche. Moi, je pense que c'est plutôt les randonneurs qui devraient arrêter les randonnées le samedi et le dimanche.
Mais pourquoi ce serait pas le contraire ?
Parce que les chasseurs ont les droits.
Bah, la semaine.
Excusez-moi, je sais pas, je m'excuse de vous couper. Hein. Bordel de merde, laissez-nous chasser.
Voilà, c'est une réalité également ces discours. En parallèle des statistiques avancées par d'autres et vérifiées que le nombre de tués est en baisse depuis plusieurs années. Alors vous avez peut-être entendu au loin une trompe de chasse.
Bah,
du
C'était
coup,
live.
Je me suis rapprochée.
Vous m'avez éclaté le micro.
Voilà, trompe de chasse à cour qui, elle aussi, fait polémique.
C'est une erreur d'interdire la chasse à cour.
Il n'y a pas de chasse plus naturelle.
C'est ancestral qu'on commence à mettre le doigt dans la chasse à cour. Derrière, on sait que ça sera le rouleau compresseur, il n'y aura plus rien. Il y a quelques attardés de l'extrême gauche qui veulent que ces gens-là arrêtent de chasser, c'est tout.
Voilà, alors pas touche donc ni à la chasse à cour, ni à aucune autre chasse dite traditionnelle, pratiquée par une poignée de chasseurs sur le million qu'il y a aujourd'hui en France. Mais écoutez comment le directeur du salon Charles-Henri Bachelier les défend.
Ces gens-là, s'ils ne s'appelaient pas Michel à Jean-Claude à 200 km de Paris, s'ils étaient en Amérique du Sud, les gens qui veulent leur interdire de vivre s'attacheraient aux arbres pour empêcher qu'on coupe la forêt, ils pratiquent ça. Moi, je trouve que c'est dingue. Ils sont le témoignage d'une intelligence inouïe et d'une osmose, une compréhension de l'homme avec son milieu. Ce sont nos Indiens. Ils doivent être protégés.
Voilà, tout ne serait donc qu'incompréhension de façon globale.
La plupart des gens, moi je trouve qu'ils ne comprennent pas trop notre passion.
Les gens ont du mal à comprendre tout ça, mais j'adore les animaux. Quoi. Je protège la nature peut-être plus que les gens normaux qui ne chassent pas. Et je pense qu'on a quand même un respect de l'animal et du bien-être animal.
Je me suis toujours dit que je préférerais mourir à l'état sauvage que d'être dans un élevage industriel.
Mais est-ce que vous ne préféreriez pas mourir tout court, pouvoir vivre dans votre état naturel du coup sauvage ?
Alors oui, petit blanc sur la réponse. Hein. Avant les tout derniers arguments, d'abord le classique.
L'homme préhistorique chassait, cueillait, je veux dire, c'est la base de l'homme. Hein.
Et oui, prédateurs nous sommes.
Vous mettez une peluche et un poussin devant un enfant, à coup sûr, il va aller sur le poussin, c'est dans nos gènes, quoi.
Oui, mais il va pas forcément le tuer.
Ah bah, laissez un poussin à un enfant, vous verrez. C'est un instinct.
Et non pas, c'est un instinct, mais pas une généralité, la preuve.
Chasser, c'est pas mon truc.
Pourquoi ?
Parce que j'aime pas tuer les animaux.
Et ça existe aussi, même dans les allées du salon de la chasse.
Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr et nos invités ont beaucoup réagi.
Jean-Paul Demoule, d'ailleurs, cet argument qui est sorti très régulièrement, ça date de la préhistoire, on est des chasseurs-cueilleurs, etc. Est-ce que vous, archéologue, c'est un argument qui peut justifier la chasse aujourd'hui ?
Sauf qu'il n'y a plus de vrai espace sauvage depuis longtemps. Il n'y a plus que des réserves de chasse, des parcs naturels où les animaux sont décomptés. Si on a trop, on les tue, on les prélève, comme on dit. On les nourrit ou on les soigne s'ils sont malades. On les déplace s'il y a trop d'éléphants. On les met ailleurs. Donc ça n'a rien à voir avec une nature sauvage. Il n'y a plus de nature sauvage, même qu'il n'y a pratiquement plus de forêt. Il n'y a que des plantations d'arbres, comme on dit. Donc c'est effectivement pas... un argument, d'autant plus que c'est pas pour se nourrir, c'est un passe-temps. Après, on décide que c'est bien ou pas. Mais on le voit dès le début du néolithique, la chasse, c'est plus que 4 ou 5% de la nourriture dès le début. Quoi. C'est essentiellement de l'élevage et ça va devenir une distraction, voire une distraction aristocratique comme sous l'Ancien Régime. Voilà.
Évelyne, est-ce que nos chasseurs sont nos Indiens incompris ?
Ben non, enfin je suis désolée pour eux, mais par contre qu'il y ait des pratiques ancestrales qui soient intéressantes à documenter, certes, mais c'est pas parce que c'est ancien que ça justifie de continuer, parce que si on se place sur ce registre-là, il y a beaucoup de choses contre lesquelles je serais très 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 pas d'accord.
Opposé. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Jean-Paul Demoule, je renvoie vers votre livre Homo Migrans chez Payot. Et puis Evelyne Heyer, on rappelle l'Odyssée des gènes chez Flammarion, dont la traduction en russe vient de paraître. Voilà.
Pas au meilleur moment. Hein.
Il faut le souligner. Mais il y a peut-être des habitants de la Russie qui seront contents quand même de vous lire. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, la campagne pour l'élection présidentielle.
Si tu fais ce voyage vers le sud, où le vent colle le sable sur les frontières, parle de moi à celle qui vit là, celle qui m'a dit de traverser la mer, parle de moi à celle qui vit là, celle qui a dit on ne Si tu vas où le soleil est si chaud, que la terre sourit et que craque ta peau, assure-toi qu'il y a de l'ombre à sa porte pour amener de l'eau, de lui prêter main forte. Regarde pour moi si ses tresses sont longues, si le long de sa robe elle tombe, elle faisait pour moi des nattes si belles. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Je me demande si elle se souvient. Je prie souvent pour ça. Celle qui dort aujourd'hui sous la terre. aujourd'hui sous la terre.
Celle qui vit vers le sud, c'était la voix d'Émilie Loiseau sur France Inter. À demain, Camille.
Très bon après-midi tout le monde.
Allez, 14h39, c'est l'heure des émissions de la campagne officielle pour l'élection présidentielle.